Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Chalmin. Il est historien et économiste, spécialiste des matières premières. Il a fondé le Cercle Cyclope qui publie depuis 1986 un rapport complet sur l'état et les perspectives du marché des matières premières. Le rapport Cyclope est la bible du domaine et vous l'avez sans doute deviné, avec lui, aujourd'hui, nous allons parler économie et surtout de l'impact du coronavirus sur l'activité économique mondiale et sur les économies africaines. Philippe Chalmin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cet entretien. Alors, première question. Vous publiez chaque année le rapport Cyclope qui détermine les grandes tendances qui vont façonner les marchés mondiaux des matières premières. Aviez-vous vu venir l'ampleur qu'a pris le coronavirus ?
Bien, vous touchez un point sensible puisque nous sommes en plein dans la rédaction de Cyclope 2020 et donc que nous écrivons avec une véritable épée de Damoclès qui est effectivement le coronavirus. Non. Très clairement, je crois que personne n'avait anticipé ce que pourrait être l'impact de cette pandémie. Nous avions déjà eu, je vous le rappelle, en 2019, une pandémie presque aussi importante, mais qui ne touchait que les animaux. C'était la peste porcine africaine qui a touché la Chine. Et donc là, on avait vu quand même l'impact que pouvaient avoir des maladies, cette fois-ci touchant les animaux. Là, nous n'avions finalement en mémoire que l'épisode du SRAS, mais à une époque où la Chine était beaucoup moins importante. Donc je dirais que tout le monde a été un peu pris par surprise par l'importance du coronavirus, et ça, dans le courant du mois de janvier, tout le monde a commencé à réviser ses prévisions. Le point que je peux vous faire, nous sommes à la mi-février, c'est que l'impact ne sera sans commune mesure avec celui du SRAS en 2003-2004, que les chiffres qui circulent aujourd'hui, c'est au moins 1,5% de PIB en moins pour la Chine au premier trimestre 2020, et pour l'économie mondiale, probablement 0,5% de moins, l'impact étant le plus fort en Asie, et s'atténuant peu à peu au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'Asie. Mais c'est quand même une crise qui n'a peu d'équivalent. On se souvient bien entendu des épisodes autour du sida, etc. Ça n'a rien de commun, puisque là, quelque part, c'est au fond l'atelier du monde qui se trouve en panne.
Alors, une bonne partie de l'économie mondiale est aujourd'hui paralysée. Le monde ne découvre-t-il pas qu'il s'est rendu dépendant à la Chine ?
Mais oui, la Chine, d'abord, elle pèse, c'est quand même la deuxième économie mondiale. C'est aussi, comme je vous le disais, l'atelier du monde. Son poids industriel est considérable. Et surtout, elle a une place extrêmement importante à l'intérieur des chaînes de production. Y compris des produits fabriqués en Occident, en Europe ou aux États-Unis, dépendent de composants élaborés en Chine. Et donc, on estime, par exemple, que dans le domaine de l'électronique, la moitié des composants électroniques utilisés au Japon et aux États-Unis sont d'origine chinoise. Un tiers en ce qui concerne l'Europe. Donc, vous avez des chaînes de valeur entières, qu'il s'agisse de l'automobile, qu'il s'agisse de l'électronique, qu'il s'agisse des télécommunications, qui pourraient se trouver paralysées par l'absence d'approvisionnement en provenance de Chine. Et on voit bien qu'un des aspects de la mondialisation, ça a été la mondialisation des chaînes de production, avec pratiquement toujours un passage par la case Chine. Or, aujourd'hui, la case Chine ne répond plus.
Quelles sont aujourd'hui les solutions alternatives que les pays peuvent trouver et combien de temps est-ce que ça va leur prendre de mettre en place ces solutions ?
À court terme, il n'y a pas vraiment de solution, tant la dépendance est importante. Maintenant, et ce sera peut-être un des effets positifs du coronavirus, cela pourrait inciter les entreprises à ne pas mettre forcément tous leurs œufs dans le même panier et donc à essayer de diversifier leurs zones d'approvisionnement. Je ne suis pas sûr que cela se traduira par des relocalisations dans les vieux pays industriels. Parce que le coût du travail reste quand même relativement déterminant. Mais on peut imaginer des vagues de relocalisation dans d'autres pays asiatiques. Le Bangladesh, par exemple, est aujourd'hui le deuxième exportateur mondial de vêtements. Notamment en ce qui concerne l'Europe, l'intérêt serait de relocaliser dans ces banlieues proches, quelque part, je pense au sud de la Méditerranée, et je pense pourquoi pas à l'Afrique. C'est un peu le modèle qu'utilise aujourd'hui l'Éthiopie.
Justement, pour pouvoir bénéficier de ces délocalisations, que devraient faire les économies africaines, à votre avis ?
Le problème des économies africaines, c'est que, dans bien des cas, leurs infrastructures industrielles sont très limitées. Mais le modèle éthiopien montre que, assez rapidement, les choses peuvent changer, à partir du moment, bien entendu, où on est capable d'assurer la stabilité politique, la stabilité institutionnelle et des états de droit. Il est clair que c'est peut-être que ce sera de toute façon, à un moment ou à un autre, la chance de l'Afrique. Dans ce mouvement de mondialisation, la Chine, nous touchons probablement le point haut de la mondialisation centrée autour de la Chine. J'espère que le coronavirus permettra de sortir de cette dépendance et justement de jouer la carte d'autres pays qui jusque-là avaient d'ailleurs souffert quelque part de la mondialisation. Il y a encore une vingtaine d'années, le bassin méditerranéen avait des industries textiles extrêmement importantes qui approvisionnaient l'Europe. Quelque part, la Chine avait pris leur place. Peut-être est-il possible maintenant d'inverser cette tendance, mais ne nous faisons pas d'illusions, ça prendra du temps.
Alors, aujourd'hui, quelles sont les matières premières les plus touchées par la situation ?
Toutes les matières premières qu'importait la Chine, c'est-à-dire pratiquement toutes les grandes matières premières industrielles, puisque la Chine était, et toujours d'ailleurs, le premier consommateur et en général le premier importateur mondial de pratiquement tous les produits. Donc on en a vu l'effet sur les marchés des métaux, sur les marchés des matières premières agricoles, je pense au caoutchouc, je pense à l'huile de palme, sur le marché bien entendu du minerai de fer, et même sur un marché pour lequel la Chine n'a pas une place aussi importante, même si elle est devenue le premier importateur mondial, je pense au pétrole. Le prix du baril de pétrole au moment de la mort du général Soleimani au début janvier était monté à 70 $. Nous sommes aujourd'hui aux alentours de 53 ou 54 $ pour le baril de Brent. Et donc, on voit bien que l'impact de la baisse de la demande chinoise, on s'attend à ce que la demande chinoise, au moins pour les mois de février et mars, baisse de plusieurs millions de barils jour. Et donc, ceci a immédiatement une conséquence. Un autre marché qui est directement concerné est, par exemple, celui du gaz naturel liquéfié, pour lequel on assiste à des détournements de navires qui devaient aller décharger en Chine et qui, aujourd'hui, vont vers d'autres destinations. Dans ce cas-là, il faut souligner aussi que nous avons un hiver particulièrement clément, ce qui limite d'autant la consommation de gaz naturel. Et puis, conséquence aussi pour un certain nombre de marchés agricoles, le 15 janvier, les Chinois s'étaient engagés, dans un accord de cessez-le-feu avec les États-Unis, d'augmenter leurs importations à la fois énergétiques et agricoles. Sur les importations agricoles, ils risquent, malgré leur bonne volonté, de ne pas y parvenir, tout simplement parce qu'ils n'en auront pas besoin.
Justement, parlons des États-Unis. Quel peut être l'impact de cette crise sur la guerre commerciale que se livrent actuellement la Chine et les USA ?
La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis avait atteint un point, je dirais, j'ai parlé d'un cessez-le-feu. C'est un peu ainsi qu'on peut qualifier l'accord qui a été signé le 15 janvier dernier. Manifestement, Donald Trump a quand même réussi à ramener les Chinois à la table de négociation. Les Chinois ont accepté pas mal de choses. Je ne suis pas sûr qu'ils parviendront à les tenir. Mais de toute manière, l'optique de Donald Trump étant sa réélection, ce qui est important pour lui vis-à-vis de l'opinion américaine, c'est qu'il est en situation de vainqueur. Et ça, c'est incontestable. Ceci étant, là aussi, un certain nombre d'entreprises américaines vont souffrir de problèmes d'approvisionnement. On sait par exemple que les iPhones d'Apple qui étaient fabriqués en Chine, aujourd'hui les usines sont à l'arrêt. Donc là aussi, on perçoit bien la dépendance, l'interdépendance qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les grandes économies mondiales et... pour reprendre une phrase célèbre, lorsque la Chine éternue, c'est l'ensemble de la planète qui attrape la crève.
Entre la guerre économique avec les USA et les contestations à Hong Kong et à Taïwan, le pouvoir de Xi Jinping ne risque-t-il pas de payer une addiction trop salée à cette situation?
C'est tout à fait possible. Maintenant, n'oublions pas que la Chine n'est pas exactement un pays démocratique. Le coronavirus a fait passer au second plan les problèmes que Xi Jinping pouvait avoir, que ce soit Hong Kong, que ce soit avec Taïwan, que ce soit même avec les Ouïghours et les minorités musulmanes. Il est clair que même si la Chine a mieux géré la crise du coronavirus qu'elle ne l'avait fait pour le SRAS, ce qui peut correspondre à une sorte d'opinion publique en Chine est quand même relativement indignée de la manière dont les autorités ont pratiqué la politique de l'autruche. Ceci étant, on peut imaginer que la crise ne doit pas être loin quand même de son point haut. D'ici 3 ou 4 mois, les autorités chinoises ont les moyens d'assurer forte relance économique, on parle de reprise en V par exemple, et donc quelque part les choses seront oubliées, ça laissera probablement des traces, mais n'oubliez pas une petite chose, il n'y a pas d'élection en Chine, la notion d'opinion publique est difficile à saisir, même s'il y a de la part des Chinois un certain doute quant à la capacité de leur administration et de leurs dirigeants. En général, c'est tout, ils peuvent les partager sur les réseaux sociaux, mais ça ne va pas ça ne va pas vraiment plus loin. Donc, je n'imagine pas que l'on puisse avoir une révolution de palais à Pékin.
On a vu la Chine se lancer ces dernières années dans une offensive sur l'Afrique et beaucoup de pays africains se muent en partenaires économiques privilégiés de Pékin. Quelles sont les économies africaines susceptibles de payer un lourd tribut à la situation actuelle?
Écoutez, moi j'ai toujours été extrêmement dubitatif quant à la volonté de la Chine de participer au développement économique africain. Ce qui intéresse la Chine en Afrique, ce sont ses matières premières, pointe à la ligne. Alors, entrer en force dans la production de matières premières en Chine, en Afrique, les Chinois ont tenu de beaux et de grands discours, ont tenu des réunions solennelles et des sommets Chine-Afrique. C'est malvenu de la part, bien entendu, d'un Français, mais pour moi, c'est une sorte de néocolonialisme dont, si j'étais africain, je me méfierais profondément. Je pense que l'un des malheurs de l'Afrique reste, qu'on le veuille ou non, sa dépendance aux exportations de matières premières. Et vous remarquerez d'ailleurs que les pays africains les plus stables politiquement et ceux qui ont, somme toute, réussi le mieux à se développer sont ceux, justement, qui ont su ne pas dépendre des matières premières. Donc, la malédiction des matières premières est quelque chose qui est une réalité en Afrique. Et malheureusement, la Chine ne fait rien pour limiter cette malédiction. Au contraire, elle en est un instrument.
Quels sont aujourd'hui les différents scénarios possibles quant à l'évolution de la situation ?
Le scénario le plus probable est que dans ce genre de phase de pandémie, on a une montée en puissance et puis on arrive à un plateau et ensuite ça diminue légèrement peu à peu avant que de disparaître. On semble quand même être sur la voie de trouver des traitements, des vaccins, etc. Donc, il est très probable que le seuil des 1300 décès sera dépassé, mais on peut imaginer, je ne suis pas médecin bien entendu, on peut imaginer que le point haut de cette pandémie sera atteint assez prochainement. Ça va se traduire par une diminution de la croissance chinoise. La Chine ne fera pas 6% de croissance, elle fera probablement cette année de l'ordre de 4,5 à 5%, ce qui entre nous n'est pas mal. Les autorités chinoises ont quand même largement les moyens d'assurer la relance économique, quitte même à ne pas tenir leurs objectifs environnementaux. Et donc, normalement, cette épidémie de coronavirus devrait la page devrait en être tournée quelque part à l'été 2020. Mais j'avoue que j'atteins mes zones d'incompétence, je ne suis pas médecin, donc je ne sais absolument pas comment cela peut se développer. On l'a vu, alors dans un autre domaine, la peste porcine africaine, la Chine est toujours directement touchée, et avec elle une partie de l'Asie, mais là il s'agit de pandémies animales. Sur des pandémies humaines, avec les moyens qu'on est capable de mettre en place, j'imagine que aux alentours de la fin du premier semestre, ça devrait déjà être un peu quelque chose du passé. L'économie chinoise repartira. J'espère simplement qu'on en prendra la mesure des conséquences et que, notamment, on pourra aller initier ce mouvement de de nouvelle délocalisation qui était déjà d'ailleurs à l'œuvre, puisque, par exemple, Foxconn, le fabricant des iPhones d'Apple, avait annoncé, il y a maintenant 6 ou 7 mois, qu'il ouvrait une usine de fabrication d'iPhone en Inde. Donc, le mouvement de délocalisation devrait avoir lieu. C'est là que l'Afrique pourrait avoir sa place et sa carte à jouer.
Philippe Chalmin, merci beaucoup.